Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Et rebonjour Guillaume Erner. Donc on va parler comme prévu du Burundi, donc la poursuite du bras de fer politique avec notre invité Jérémy Révillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant, Université de Pau et des Pays de la Dour, rattaché au laboratoire L'Afrique dans le Monde, le LAM, de Bordeaux-Pau. Alors, le pays a souvent été traversé par des périodes chaotiques depuis l'avènement de la République, de nombreux coups d'État, des massacres à caractère génocidaire, une longue et cruelle guerre civile, on la date de 1993 à 2006, on parle de centaines de milliers de morts. Le président, alors Nkurunziza, a été réélu en juillet dernier lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Il est accusé de perpétrer des atrocités. On avait craint au printemps dernier l'embrasement du pays. C'est un pays de 10 millions d'habitants environ, à 80% Hutu. Est-ce que tout ce que j'ai dit est exact, Jérémy Révillon ?
C'est exact. Je confirme toutes vos informations. Le président Nkurunziza donc, a annoncé sa candidature à un nouveau mandat présidentiel l'année dernière, le 25 avril 2015. Et dès le lendemain, il y a eu des manifestations et des morts. Et le 13 mai, notamment, c'est une date à retenir puisqu'il y a eu une tentative de coup d'État contre Pierre Nkurunziza, coup d'État qui a échoué. Et enfin, donc, les élections présidentielles le 21 juillet 2015 qui ont permis la réélection de Pierre Nkurunziza dans des élections qui ont été jugées non crédibles par l'ONU.
Alors, on va évidemment reparler des causes de cette situation, encore une fois, chaotique, et puis des conséquences, en particulier régionales. Bon, hier, c'était bien hier, il y a eu l'Union africaine qui, a renoncé à envoyer une force de 5000 hommes qui avait été prévue en décembre. C'est une surprise pour vous ?
Non, c'est pas du tout une surprise, puisque dès le départ, les autorités burundaises refusent le déploiement de cette force, considérant que le pays est à 98% paisible, et menacent dès le départ d'accueillir cette force comme une force d'invasion. Donc aujourd'hui, clairement, la Maprobu n'existe donc pas. Le sommet de l'Union africaine a longuement évoqué le Burundi ce week-end, il n'y a eu aucun accord qui a pu être trouvé. Certains chefs d'État considèrent que cette mission serait une atteinte à la souveraineté d'un pays africain. Et l'Union africaine ne peut clairement pas imposer cette mission sans le consentement des autorités burundaises.
Et alors, quand l'Union africaine a dit on va peut-être envoyer cette force, il le faut, quand elle a dit en décembre, il y a une chose qui n'était pas claire en tout cas dans ce que j'ai lu, cela aurait été sous quel mandat ? Un mandat ONU ou non ? Ou c'est l'Union africaine qui aurait décidé ça par elle-même ?
C'est l'Union africaine qui aurait décidé ça par elle-même. Depuis plusieurs années, l'Union africaine tente de mettre en place la force africaine en attente, qui pourrait répondre à ce type de problématique. Mais le gros souci de cette force, c'est qu'elle est toujours soumise à un vote, notamment des chefs d'État. Et ces chefs d'État ne veulent pas créer un précédent avec la situation burundaise qui pourrait un jour se retourner sans doute contre eux.
Oui,
un rétro pédalage de la part de l'Union africaine ce week-end sur le dossier Burundi.
Si on va chez le voisin, un jour, on peut subir le même sort. Alors ouais. J'ai vu qu'il y avait des considérés comme de grands dictateurs, la Gambie, la Guinée équatoriale, qui évidemment étaient tout à fait contre cette force, l'envoi de cette force. Mais on a l'impression que c'est un peu un jeu de rôle parce que le secrétaire général de l'ONU a dit là aussi, je crois que c'était samedi, qu'il était pour cette force, mais il n'y aurait pas eu de mandat de l'ONU en l'occurrence si elle avait été de vive force envoyée.
Oui, l'ONU a dès le départ souhaité que l'Union africaine prenne à bras le corps ce dossier pour notamment peut-être faire un bon exemple du rôle de l'Union africaine sur le continent. Les États africains reprochent souvent à l'ONU et aux dirigeants occidentaux de ne pas laisser l'Afrique s'occuper de ses problèmes. Cette fois, on a laissé la possibilité à l'Union africaine et au Conseil de paix et sécurité de s'occuper du dossier burundais. Malheureusement, maintenant, l'Union africaine évoque simplement l'envoi d'une délégation de très haut niveau. On ne sait pas vraiment ce que ça va être, peut-être des chefs d'État, mais sans se prononcer ni sur la composition, ni sur le calendrier. C'est clairement une victoire diplomatique pour les autorités burundaises ce week-end.
En deux mots, le paysage politique au Burundi en ce moment, quelques phrases clés.
En ce moment, donc, il y a d'un côté le pouvoir en place, le CNDD-FDD, qui paraît très solide, qui campe sur ses positions. Et puis, d'un autre côté, plusieurs oppositions. Une opposition en exil, le CNARED, qui a été fondé à Addis Abeba le 1er août. qui rassemble l'opposition, donc des membres de la société civile et aussi les anciens présidents du Burundi, mais également la création d'un mouvement rebelle qui existe depuis le 23 décembre, qui s'appelle les Forces républicaines du Burundi, le Forebu. Ils sont visibles dans le pays, notamment en province, mais aussi dans le Bujumbura rural. À leur tête, il y a le général Godefroy Nyambaré, qui était le militaire à la tête du coup d'État manqué l'année dernière, et qui est un ancien compagnon d'armes de Pierre Nkurunziza lorsqu'il dirigeait la rébellion Hutu.
Donc la situation, le terrain est très meuble au fond.
Oui, oui, clairement. Il y a, depuis plusieurs mois, il y a des meurtres et des combats, clairement. Le 11 décembre dernier, il y a eu près d'une centaine de morts dans des affrontements, mais aussi dans beaucoup de cas, ça ressemblait à des exécutions. Les cadavres étaient visibles au petit matin dans les rues de Bujumbura. C'est ce qui avait d'ailleurs ému la communauté internationale et semblait entraîner une prise de position, une prise de conscience, notamment de l'Union africaine. Mais la situation est très, très instable et on assiste aujourd'hui, le pays clairement est un désastre économique. Il y a une augmentation importante de l'insécurité, les rackets, des cas de viol, des meurtres. On a un pays à l'arrêt et surtout une peur qui s'installe des deux côtés. Pas seulement du côté de l'opposition, mais également du côté du pouvoir en place.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a, juste d'un mot, une dimension régionale? Alors, on sait qu'il est voisin, le Burundi, du Rwanda, mais il y a aussi à côté la République démocratique du Congo, et que là aussi, cette région, d'ailleurs, qui a été largement déstabilisée par le Rwanda, et très sciemment depuis des années et des années, pourquoi est-ce qu'il y a une dimension régionale importante?
Oui, la dimension régionale est très, très importante. Tout d'abord, officiellement, puisque les négociations sont... L'Ouganda est en charge de la médiation depuis plusieurs mois, médiation d'ailleurs qui patine. Le rôle du Rwanda, le pays est accusé par Bujumbura de soutenir et d'armer la rébellion. Les autorités de Kigali refusent cette accusation, même si Paul Kagame ne se prive pas de critiquer ouvertement Pierre Nkurunziza et notamment ses résultats économiques. Il faut savoir que sur ce sujet, le président rwandais cherche l'équilibre, hein, puisqu'il est lui-même candidat à un troisième mandat. Et puis oui, il y a également la RDC, notamment l'est du pays, la région des Kivu, qui est très instable depuis plus de 20 ans. Les rebelles rwandais et rwandais sont déjà installés dans cette région, et elles pourraient servir de base arrière pour la rébellion burundaise.
Alors j'ai vu effectivement qu'il y avait par exemple, selon l'ONU, 230 000, ça paraît énorme, 230 000 exilés burundais.
Oui, je confirme les chiffres, la plupart, près de la moitié sont installés en Tanzanie et un peu plus de 70 000 personnes sont aujourd'hui au Rwanda. C'est une habitude dans la région, dès qu'il y a des combats, dès qu'il y a des violences, il y a des réfugiés, c'est quelque chose qui existe depuis les indépendances et qui se perpétue aujourd'hui.
Voilà, en tout cas, merci de toutes ces lumières sur un sujet compliqué. On sera obligé d'y revenir apparemment. Jérémy Révillon, vous êtes doctorant à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Demain, Guillaume, nous allons parler de Taïwan. À propos du facteur démographique, c'est très intéressant parce que c'est l'un des pays avec le Portugal en Europe qui n'a pas, enfin, en simplifiant les choses, évidemment, qui n'a pas d'enfants. C'est-à-dire que ce sont des taux de fécondité extrêmement bas, par les plus bas du monde. Alors, on va en reparler avec une démographe qui est Yuhua Chen et professeure à l'Université nationale de Taïwan, encore une fois, franceculture.fr.
Et elle nous expliquera pourquoi ils ne font pas l'amour sur une grande échelle.
C'est pas exactement le ton de l'interview que j'ai menée avec elle.
Oh, on verra demain, Thierry.